Au-delà du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous sommes des omnivores, c'est-à-dire que notre corps peut digérer aussi bien de la viande animale que des végétaux. Cela nous donne une sacrée capacité d'adaptation. Mais curieusement, avec le développement de l'industrialisation et la hausse du niveau de vie, c'est la consommation de viande qui a augmenté. À l'échelle mondiale, nous en consommons 4 fois plus qu'il y a 50 ans. 300 000 millions de tonnes. 2/3 de porc et de volaille, 1/3 de bœuf. Si les pays riches consomment beaucoup de viande, mais de moins en moins, les pays plus pauvres en consomment peu, mais de plus en plus. Il n'est pas question ici de trancher dans le vif du débat, mais plutôt de s'interroger sur notre impact en tant que mammifères. Qu'est-ce qui nous donne le droit de massacrer un bœuf ou un cochon et de cajoler un chien ou un chat? N'est-il pas temps que les humains que nous sommes acceptent avec humilité de n'être qu'une espèce respectueuse des autres? Cette émission devrait vous donner matière à réflexion.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Dans les pays industrialisés, tout est fait pour que nous ne nous posions pas la question de l'origine du steak ou de l'aile de poulet que nous mangeons. C'est un morceau emballé avec parfois une jolie photo de vache dans un pré, mais les coulisses de cette industrialisation sont moins glamour. Ce sont les abattoirs. Alice Milo a courageusement visité l'un d'entre eux à Laval, dans l'ouest de la France.
Donc avant de rentrer dans l'outil, on se lave les mains et on va se nettoyer les bottes dans un appareil conçu pour, de façon à ce que derrière on puisse aller directement dans les salles de travail. Donc là on va rentrer dans l'eau de l'abattage. Ici donc nous sommes dans les porcheries. Les animaux sont stockés dans des allées avec la possibilité de s'abreuver en attendant le passage sur la chaîne d'abattage. Après on les passe lot par lot. On a une capacité de stockage d'à peu près 600 porcs, qui correspond à un peu plus de 2 heures de tuerie. On est un peu limité, on a un projet d'agrandissement pour travailler sur le bien-être animal, c'est-à-dire que pour que les animaux qui viennent sur le site soient moins stressés. La baisse de stress interviendra par une période de repos qui sera entre 2 et 3 heures avant de rentrer sur la chaîne d'abattage, où là, bien sûr, la finalité, c'est quand même la mort. Tellement là, on est en train de passer les porcs au niveau du restreneur. Sur le site de Laval, il existe plusieurs sortes de mise à mort en fait, de l'animal, soit une mise à mort électrique, soit une mise à mort au gaz de CO2. Ici, sur le site, c'est une mise à mort électrique. Donc, les animaux sont électrocutés, ce qui crée une mort clinique. Et après, la véritable mort intervient au niveau de la saignée.
Diminuer encore la souffrance de l'animal.
C'est très compliqué. Actuellement, il y a des recherches qui n'ont pas abouti sur d'autres méthodes que celles que l'on connaît pour le moment. Donc il y a toujours un peu de stress, le fait de les amener, vous voyez, là on les amène de façon relativement douce. Il y a toujours des réactions de certains porcs par rapport à d'autres. Enfin bon, les animaux ne sont pas bousculés et sont amenés directement vers le piège, tranquillement. Voilà, vous allez voir, donc l'animal... est électrocuté par un système de pinces. On va le voir apparaître en sortie. Donc deux électrodes qui lui envoient un courant et qui le mettent en ce qu'on appelle une mort clinique.
Donc l'animal descend après sur une espèce de toboggan, il arrive sur un tapis roulant.
Et c'est le tapis de saignée. Donc là, on saigne l'animal au cœur et la véritable mort arrive à ce niveau-là. Mais étant donné qu'il est dans cette constitution d'anesthésie, l'animal ne souffre plus.
Séverin Muller est sociologue. Il y a quelques années, il a mené une enquête participative. Il s'est fait engager comme salarié pendant plusieurs mois dans un grand abattoir pour mieux observer l'organisation d'une usine pas comme les autres. Il raconte son expérience dans son livre « À l'abattoir ».
C'est une industrie du vivant, oui et non. C'est plutôt une industrie de la mort quand même. On part de matières premières vivantes, mais qui restent pas très très longtemps vivantes dans l'abattoir. À l'intérieur de l'abattoir, on parle très peu de la mort. Il y a beaucoup de dédramatisation du travail par l'humour, un humour assez cru. Mais en même temps, l'extérieur, leur entourage, la société, les médias leur renvoient ce sentiment d'une culpabilité très forte de leur activité. Ça crée une forme d'angoisse aussi, ou un climat oppressant. Certains anciens qui me racontaient qu'après leurs vacances d'été, quand ils reviennent à l'abattoir travailler ou dans les ateliers de découpe, l'odeur de la viande, du sang, les déjections mêlées au chlore, ça leur est insupportable et qu'ils passent du temps dans les toilettes à vomir les premières semaines parce qu'il faut qu'ils se réacclimatent à l'environnement.
L'odeur, ça a été le pire. Le boulot, non, par lui-même, non, c'était pas trop gênant. Le contact de la viande, il y a des personnes qui n'aiment pas, mais ça ne posait pas de soucis. Quoi. Mais le pire, c'est l'odeur. Quoi. Quand tu rentres le matin, la vue du sang, l'odeur, voir des bêtes pendues, ou des bêtes aller se faire abattre. Quoi. Donc il y a des gens qui veulent pas voir ça. Il faut bien se dire une chose, l'abattoir, c'est fait pour se nourrir. Quoi. On a besoin de ça. Quoi.
C'est nécessaire, c'est indispensable.
Nécessaire, il n'y a pas à chier. Si tu ne manges pas, ça ne peut pas le faire. Puis j'ai chien et chat comme tout le monde, c'est pas pour ça que je travaille dans l'abattoir, que je vais leur faire leur fête.
Aujourd'hui, c'est 260 porcs à l'heure. Hein. Alors quand on parle aux gens de ces cadences-là, ils ne s'imaginent pas les animaux qui peuvent être tués à la vitesse, une vitesse grand V. Hein. Bon, on a un cœur comme tout le monde, mais aujourd'hui, on fait ce métier-là et on n'y pense pas trop. Hein.
On est dans une société de surproduction et de surconsommation de viande et il faudrait accepter de remettre en cause ces pratiques de consommation de viande en acceptant par là même de regarder ce qui se passe dans la coulisse. On aurait tout intérêt à envisager la viande plutôt comme un produit de luxe qu'il ne s'agit pas de manger tous les jours, mais peut-être à certaines occasions, si on n'est pas végétarien en tous les cas, ce que je ne suis pas par ailleurs. Crawling in the dirt, and for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in.
Bonjour Marina Koutoumna.
Oui, bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de l'Organisation des végétariens du Togo, qui regroupe 13 associations. Et c'est étonnant parce que l'Afrique est le continent où l'on mange le moins de viande, hein, même si ça augmente chaque année. Alors, quelles sont les raisons de votre mobilisation ?
Alors, nous parlons d'abord de la santé et nous présentons toutes les maladies qui sont la base de l'alimentation basée sur les protéines animales. Et puis ensuite, nous présentons le côté écologique surtout. Et le côté éthique n'est pas très... La population ne le comprend pas tellement. Mais donc, c'est les deux aspects écologiques et sanitaires que nous présentons le plus à la population. Et c'est réellement ce qui nous fait avancer et tenir jusqu'aujourd'hui.
Mais c'est un discours difficile à faire passer parce que servir de la viande, c'est prestigieux. C'est un maître choix pour honorer ses invités, surtout en Afrique.
Ah oui, ça c'est vrai, c'est très difficile et quelquefois on nous rejette, quelquefois on ne nous écoute pas, nous allons quelque part, on ne veut même pas nous écouter et donc même on va jusqu'à penser que nous sommes sectaires, on nous met dans une classe de nid, on ne veut pas nous écouter, on nous donne toutes les étiquettes, mais ça ne nous décourage pas, on continue, on se dit que c'est vrai que le message prend le temps pour passer. Mais on continue. Nous avons initié, par exemple, le lundi sans viande. Ça fait pratiquement un mois que nous avons commencé. Nous travaillons dans les écoles, nous travaillons dans les services. Nous essayons d'amener les gens à comprendre au moins que la journée de lundi, que tout le monde fasse l'effort de ne pas consommer de la viande. Et nous avons déjà quand même des gens qui nous donnent des résultats, qui nous disent que c'est bien. Ils ont essayé 2, 3, 4 lundis. Et nous continuons toujours... Le combat, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile.
Et est-ce que vous êtes connecté à d'autres associations, d'autres pays africains ?
Oui, nous sommes membres de l'Union internationale du végétarisme. Et donc, il y a une représentation au Togo et en Afrique plutôt. Et donc, tous les autres pays, le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, qui sont membres de l'Union internationale du végétarisme, nous sommes en lien avec tous ces pays-là. Quand ils organisent, eux aussi, des conférences locales, ils nous invitent Et quand nous aussi nous organisons, nous les invitons, ils venons. Et donc ensemble, nous sillonnons les villes de chaque pays pour passer le message.
Alors vous avez failli organiser la conférence internationale du végétarisme à Lomé en 2014. Elle a été annulée à cause de l'épidémie Ebola. Mais vous avez l'intention de relever à nouveau le défi?
Oui, nous voulons relever le défi en 2017. Pour le moment, on n'a pas encore choisi le pays, mais la zone Afrique est en train de réfléchir avec l'Union internationale du végétarisme pour voir dans quel pays ça va se tenir. Mais ça va se tenir en 2017. Et donc, nous croyons que le Togo serait toujours le pays qui serait choisi pour tenir cette conférence.
Eh bien, vous nous tiendrez au courant. Merci beaucoup, Marina Koutoumna.
Merci beaucoup. Merci à vous aussi.
La viande sur la table.
Pour nous écrire,
la viande par terre.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
La viande.
En France, depuis 2008, l'association L214 met les pieds dans le plat. À coup de vidéo-choc filmé en caméra cachée, elle nous ouvre les yeux sur les coulisses de l'élevage, de la pêche industrielle et des abattoirs. Ses 17 salariés sont répartis dans toute la France, mais nous sommes allés dans le premier bureau de l'association à Lyon, dans le sud-est du pays.
Je m'appelle Brigitte Gauthier, je suis une des cofondatrices et une des porte-parole de l'association L214. L'association tire son nom, L214, d'un article du Code rural qui a été voté en 1976 et qui reconnaît pour la première fois en France que les animaux sont des êtres sensibles dans la réglementation. Pour l'heure, ça n'a eu aucune conséquence pratique sur ce qu'on fait subir aux animaux. Et donc, la ligne de l'association, c'est une ligne qui est très claire. C'est aujourd'hui soulever le débat sur la question animale, poser des questions à notre société collectivement. On doit se poser, on a le devoir de se poser des questions d'éthique, des questions de morale vis-à-vis des animaux.
Vous faites des enquêtes sur le terrain. Par exemple, récemment, là, vous avez publié un film. Vous allez faire des tournages caméra cachée dans les abattoirs. Donc, les deux derniers films, c'est toujours tourné en France. Donc, c'est à Pézenas et dans le Mercantour. On peut regarder ces images ensemble?
Alors, ces images, oui, elles sont sur le site de L214.
Voilà, donc là, sur le site, il y a écrit « Deux abattoirs, une même horreur ». Et donc, on lance le film.
Je suis Rémi Gaillard, je vous parle au nom de l'association L214 qui fait des vidéos quand même vachement moins drôles que les miennes. Les images qui vont suivre dévoilent encore une fois la cruauté des hommes envers les animaux. Ça se passe malheureusement chez moi dans l'Hérault, à l'abattoir de Pézenas, mais également dans celui du Mercantour, dans un autre département dans les Alpes-Maritimes. En fait, personne n'est à l'abri.
Alors, on vous fait une petite pause. Rémi Gaillard, donc, c'est quelqu'un qui est connu pour faire des vidéos plutôt rigolotes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de suiveurs sur YouTube et sur Internet. Et là, vous l'avez un peu détourné pour dénoncer la maltraitance des animaux dans les abattoirs.
Alors, effectivement, Rémi Gaillard suit l'association depuis un petit moment et on avait vu. Donc, on l'a contacté via Twitter. Et tout de suite, pour lui, ça a été important de contribuer à montrer ces images. Quand on lui a dit que c'était des images en plus qui provenaient d'un abattoir à côté de chez lui, ça a pris d'autant plus d'importance pour lui. Alors, c'est une personne qui n'est pas végétarienne aujourd'hui, mais qui se pose beaucoup de questions, je crois, comme beaucoup de Français, finalement, de savoir ce qu'implique notre... façon de nous alimenter.
Donc ça fait aussi venir un public peut-être nouveau, parce que les gens qui suivent Rémi Gaillard, du coup, peuvent venir voir ces vidéos. Et alors après, on enchaîne donc sur ces images qui sont absolument immondes, extrêmement violentes. Vous pouvez nous décrire ce qu'on voit?
Donc il y a les deux abattoirs. Sur le premier abattoir, Pézenas, les images ont été prises entre novembre 2015 et mai 2016. Donc,
certains sont tirés dans le piège avec un treuil.
Voilà. On a pris ces images-là. Donc ces images, elles datent de novembre. Elles sont absolument folles de tirer un animal comme ça, mais parce que le piège n'est pas adapté. On voit qu'ils relèvent la tête. Ils voient leurs congénères qui sont déjà suspendus. Donc on les voit paniquer. Et avec un animal qui bouge comme ça, après, il faut pouvoir viser. Mais on voit
Alors viser, parce que le principe dans tous les abattoirs, c'est qu'on fait une décharge électrique pour rendre les animaux inconscients, c'est ça, avant de les tuer.
Alors il y a plusieurs méthodes là pour les chevaux, c'est ce qu'on appelle un pistolet à tige perforante. L'objectif avec ce pistolet, c'est de rendre inconscients les animaux, il défonce le crâne et il vient détruire une partie du cerveau. Donc c'est un procédé violent et en plus, quand il est mal placé, c'est des souffrances encore accrues pour les animaux. Enfin, même les ouvriers d'abattoir souvent disent ils sentent la mort, effectivement. Enfin, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de dramatique qui va arriver et du coup, c'est la panique totale. Donc des animaux qui bougent, la tête n'est pas maintenue. Et avec ça, l'ouvrier d'abattoir, lui, sa charge, c'est de placer le pistolet comme il faut pour fracasser le crâne d'un coup. Parce qu'on ne veut pas que les animaux soient morts au moment où on les rend inconscients. Dans les abattoirs, on a besoin que le cœur batte encore, que les animaux soient encore vivants au moment où on plante le couteau, au moment où on les saigne.
Pourquoi ? Pour la qualité de la viande ?
Eh bien, pour vider le corps du sang, en fait, que le cœur continue de battre, effectivement, pour éviter que la viande faisande, finalement, pour la conservation.
En fait, on a, nous, les humains, mis en place une technologie de la mort très très poussée pour ces animaux.
Alors d'un côté elle est très très poussée et de l'autre elle n'a pas évolué depuis les années 70, alors qu'on a fait d'énormes progrès. Enfin là on va parler sur un ordinateur qui n'existait pas dans les années 70, toute la technologie a super évolué et dans les abattoirs on est toujours à la même époque, on utilise toujours les mêmes procédés. L'étourdissement est obligatoire depuis 1964 et les techniques d'étourdissement n'ont pas évolué. Il y en a trois aujourd'hui qui sont à peu près les plus utilisés en France. Donc le pistolet à tige perforante qui vient défoncer le crâne et puis détruire une partie du cerveau. L'électronarcose, en fait, ce sont des décharges électriques qui passent à travers le cerveau de l'animal de la même façon pour le rendre inconscient. Et puis le gaz, le CO2, qui est utilisé en France, notamment pour les cochons, comme on a pu le voir sur les images qu'on a prises à Alès. Et puis il y a aussi l'abattage sans étourdissement, où là, les animaux sont égorgés à vif. Mais dans tous les cas, les animaux sont égorgés. On va venir couper les carotides, les jugulaires, comme on les appelle, de façon à les vider de leur sang alors qu'ils sont encore en vie.
On les amène à un endroit et qu'il faut qu'ils ressortent dépecés au bout finalement.
Exactement. Alors à l'inverse des usines de voitures où là on va monter des pièces ensemble, en fait là l'objectif de l'abattoir c'est de démonter les animaux, de les réduire en tout petits morceaux méconnaissables. Quand on achète de la viande, souvent on a aucune pensée pour l'animal qui a existé avant. On ne se pose jamais les conditions de quelle a été sa vie, quelle a été sa mort. Et c'est savamment entretenu justement par la publicité qui cherche à nous faire oublier. Tous les professionnels de l'agroalimentaire cherchent à nous faire oublier que derrière la viande, derrière le lait, derrière les œufs, derrière les poissons qu'on mange, il y a eu des êtres vivants qui ne voulaient pas mourir, qu'on a tués contre leur gré pour obtenir toutes ces choses-là, quoi.
Et en même temps, c'est ce qui nous permet, à nous, humains, de manger de la viande, ce que l'on fait. C'est un argument que vous devez souvent entendre depuis la préhistoire.
Est-ce que ce n'est pas le dernier argument qui nous reste, finalement, de dire « Oh là là, on a toujours fait ça, donc on va continuer ». Depuis très longtemps aussi, il y avait une tradition d'avoir des esclaves. Pour autant, on a remis en question, à juste titre, le fait de réduire des populations en esclavage. Aujourd'hui, on sait que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, chose qu'on pouvait éventuellement ignorer avant, d'autant que Descartes a bien mis en scène l'animal-machine, en essayant de nous faire oublier justement que les animaux étaient des êtres sensibles. Chose que chacun d'entre nous reconnaît, on a tous côtoyé des chiens, des chats, même d'autres animaux. On voit très bien qu'il y a une intelligence, une sensibilité des animaux.
Oui, mais justement, voilà. On fait une distinction finalement entre le chien, le chat auquel on va être attaché et puis le bœuf, le cochon que l'on va manger.
Oui, donc ça c'est une attitude tout à fait spéciste justement, en reconnaissant au chien et au chat ses capacités même d'intelligence, et puis en la déniant complètement aux cochons, aux vaches, etc. Si on prend par exemple sur le critère de l'intelligence, si on pose la question aux gens qui est le plus intelligent entre un chien et un cochon, eh ben, les gens vont répondre forcément le chien. Ben non, en fait c'est le cochon. Donc d'un côté, cette capacité des animaux, cette sentience, cette intelligence des animaux, et puis de l'autre, le fait que on se rend compte aujourd'hui, avec tous les progrès qu'on a fait en nutrition, qu'on n'a pas besoin de produits d'origine animale pour vivre en bonne santé.
Restez avec nous sur RFI, on se retrouve juste après le flash d'info. Nous irons en Chine où le gouvernement chinois veut limiter la consommation de viande. Nous verrons avec un juriste où en est le droit animalier et nous continuerons notre discussion avec Brigitte Gauthier. À tout de suite.